Keep on rolling, baby. Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables.
Keep on rolling, baby!
Le Pit Stop avec Denis Gravel, 7h55. L'Open Mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonelli Acarini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine. 102.1. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Marceau, le soir. Le soir.
C'est encore une fois un plaisir de l'accueillir ce soir. Son nom, c'est Joël Mauzé, docteur en neurosciences. Salut, Joël.
Salut, salut.
Merci d'être avec nous. J'ai plein de choses à jaser avec toi. Peut-être d'entrée de jeu, jaser avec les auditeurs et définir ce que c'est qu'un docteur en neurosciences.
En fait, un docteur en neurosciences, c'est quelqu'un qui a étudié très longtemps pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe entre nos deux oreilles. Alors, certains vont développer leurs connaissances pour développer, par exemple, des programmes qu'on va appeler de l'intelligence artificielle. Il y en a d'autres qui vont proposer des théories pour aider les neurologues, les ergothérapeutes ou les physiothérapeutes pour faire de la réadaptation, par exemple. Et puis, dans mon cas, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment le cerveau, en fait, va gérer nos émotions, va gérer nos comportements, donc comprendre les comportements sociaux, comprendre comment l'enfant apprend à l'école. Et plus on en apprend sur le cerveau, plus ça nous permet en fait de découvrir d'une part la beauté de l'être humain et d'autre part la complexité que ça peut représenter parfois de pouvoir arriver à s'adapter dans le monde d'aujourd'hui.
Ah, le cerveau est assez complexe, puis on a des biais aussi, tu sauras nous les expliquer, ces fameux biais-là. Mais dimanche est arrivé un incident à l'aéroport à LaGuardia à New York où un bombardier CRJ-900 de la division régionale d'Air Canada, Jazz Aviation, qui a percuté de plein fouet un véhicule de pompiers. Et je regardais les commentaires sur les réseaux sociaux. Et là, les gens qui sont anxieux par rapport au fait de prendre l'avion s'en sont donné un cœur joie en disant que l'avion, c'était dangereux, alors que c'est le moyen sécuritaire par excellence pour voyager sur Terre. Là. C'est très rare, les accidents d'avion, Joël. Qu'est-ce qui fait en sorte que notre cerveau, des fois, peut sélectionner des trucs qui font en sorte que ça a l'air plus gros que ce que ça l'est en réalité?
Mais en fait, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que quand je suis sur mon vélo, quand je marche à pied ou quand je conduis ma voiture, j'ai un certain contrôle sur ce que je fais. Alors que quand je suis dans un avion, il faut que je m'en remette totalement au bon vouloir du pilote, des mécaniciens qui sont assurés que l'appareil était sécuritaire, des contrôleurs aériens pour qu'ils fassent leur job du mieux qu'on peut. Puis on sait que, par exemple, dans l'accident qui s'est passé dimanche, en fait, c'est qu'il y a eu un incident sur un autre vol, je pense qu'il était de la compagnie Delta, où il a cru qu'il y avait un incendie, ou tout comme moi, il y avait une drôle d'odeur dans l'avion. Et le contrôleur, qui semble, était tout seul dans la tour, donc il y a probablement une problématique d'organisation sur place.
Ouais. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient dans cette tour-là, mais que probablement à cette heure-là, le contrôleur contrôlait le sol et contrôlait les airs aussi. Puis je peux te parler de mon expérience. J'ai mes licences de pilote. À Québec, exemple, quand j'ai pris mes cours en 2006, tu avais Québec Air et Québec Sol. Donc, pour te déplacer sur le tarmac, quand tu partais avec ton avion, tu devais demander la permission de circuler à Québec Sol. Et par la suite, c'est Québec Air qui te prenait en charge pour te donner ta permission pour décoller. Dans ce cas-ci, ce qu'on comprend, c'est que c'était le même contrôleur aérien qui contrôlait le sol et les airs. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'il y a eu un peu confusion en disant « il était tout seul dans le tour ». Non, il y a les gens du terminal aussi qui sont là, qui sont très affairés. Et contrairement à ce qu'on peut penser, moi, je pensais quand j'ai visité la tour que tout le monde était bien stressé, branché sur le soluté de café, puis les gens ils tiraient les feuilles dans les airs parce que ça allait pas.
Mais c'est ce qu'on montre dans les films.
Je peux te dire que c'est l'endroit le plus calme que j'ai visité de ma vie. Là. Il y a ça, puis les salons funéraires. Là. Le stress est à peu près pareil. Là.
Mais tu vois, ça nous permet de faire le lien avec ce qui amène aussi les gens à avoir tellement peur, c'est que nous regardons des films d'anticipation, on regarde des films qui nous font peur, on voit des accidents qui sont pathétiques, dramatiques, on nous fait toujours en fait nous attacher à quelques personnages assez stéréotypés, puis on voit le drame qui peut arriver dans un train ou dans un avion par exemple, et Et ça vient marquer énormément notre psychologie intérieure, dans le sens qu'on se représente en fait l'utilisation d'un avion comme étant un espace extrêmement dangereux, même si statistiquement, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de risque de prendre un avion que de traverser la rue à Québec ou à Montréal. Donc, à partir de ce moment-là, on a perdu en fait le sens de la normalité, le sens du gros bon sens, parce qu'on regarde trop la télévision, on regarde trop des films d'anticipation. Et ça, c'est accentué aussi par les médias. Parce que quand il y a un accident, par exemple, un piéton qui se fait frapper, c'est certain qu'on va en parler dans les journaux, on va voir ça sur les médias sociaux où il va y avoir un entrefilé dans le journal du soir. Alors, quand il y a un accident un accident d'avion, pendant des heures et des heures, les journalistes vont surfer sur la nouvelle, d'accord, vont dramatiser un certain nombre de choses, et à force de regarder la télévision en direct non-stop dans des chaînes comme RDI et LCN, qui sont très utiles pour pouvoir se maintenir au courant de ce qui se passe au Québec et dans le monde, mais malheureusement, c'est que ça nous imprime en fait une fausse image que le monde est extrêmement dangereux et qu'on va incessamment mourir d'une catastrophe irrémédiable. La seule chose qu'on sait, c'est qu'un jour, on va mourir.
Ouais.
Mais la probabilité qu'on décède dans un accident d'avion est relativement faible.
Puis parle-nous des billets de confirmation. Bon, quelqu'un qui a peur de l'avion, une peur qui est incontrôlable, va nécessairement prendre ce genre d'événement-là puis dire à tout le monde, regardez, je vous l'avais dit que se promener en avion ou voyager en avion, c'était dangereux. Puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, ils sont très, très attentifs aux accidents, ce qui fait en sorte que dans leur cerveau, ils ont vraiment l'impression qu'il y a des accidents d'avion partout, alors qu'en réalité, c'est une très faible proportion des accidents qui impliquent des avions. Ces fameux billets-là, est-ce qu'on est capable de les comprendre, de les contrôler quand on sait ce que c'est exactement?
En fait, c'est difficile de les contrôler parce que même si on utilise le concept de biais cognitif, ce n'est pas un biais cognitif. Un biais cognitif, c'est utilisé avec notre intelligence, notre réflexion, notre pensée, ça va partir du cortex préfrontal. D'accord? Et c'est une preuve d'intelligence d'avoir des biais cognitifs. Ça veut dire que notre cerveau est capable de prendre des raccourcis pour analyser beaucoup plus rapidement une situation. Et éventuellement, on va confirmer une connaissance ou une croyance qu'on avait auparavant. Dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus des structures qui sont en dessous du cortex, au cœur du cerveau, notamment l'amygdale et le cortex singulaire qui fait partie du cerveau émotionnel, où là, tu ne peux pas le rationaliser. Il n'y a aucun contact direct entre notre belle intelligence et notre émotivité. Donc, si j'ai peur, par exemple, de prendre la voiture, ou j'ai peur de prendre un avion parce que j'ai assisté ou j'ai vu ou j'ai constaté qu'il y avait des accidents ou tout au moins un risque d'accident, les amygdales qui ont le rôle, puis il faut faire attention quand on parle d'amygdales, on en a deux dans le fond de notre bouche, celle-là, elle nous protège contre les virus. Mais celle dont je parle, c'est celle qu'on a entre nos deux oreilles qui nous protège contre toute situation qui sont potentiellement dangereuses pour nous-mêmes ou pour les gens qu'on aime beaucoup. Donc, si vous avez, par exemple, un réflexe quand vous dérapez avec votre voiture, vous faites un braquage contre braquage, ce n'est pas votre intelligence qui vous permet d'avoir ce réflexe-là, c'est les amygdales qui vont conditionner votre réaction pour éviter éventuellement de faire un crash en auto. Okay? C'est plus fort que notre volonté, c'est vraiment très, très puissant et c'est très ancré. Et là-dedans, on a toutes les mémoires de tous les traumas qu'on a accumulés depuis qu'on est né, mais y compris des traumas qui appartiennent à nos ancêtres. Donc, on a des traumas que nos parents ont vécu, nos arrière-grands-parents ont vécu, et ainsi de suite. Et la meilleure manière de le comprendre, c'est qu'une souris ne doit pas aller à l'école pour savoir qu'un chat, c'est dangereux. Elle le sait. Les amygdales ont en mémoire, d'accord, parce qu'il y a des chats qui ont croqué des souris. Les souris qui ont survécu ont transmis à leur descendance qu'un chat, c'était dangereux. Donc, il y a des choses qui ont été vécues par nos ancêtres, qui nous ont été transmises pour faire en sorte qu'on ait des attitudes protectrices pour nous-mêmes ou les gens qu'on aime. Et les films d'horreur ou les films d'anticipation vont venir jouer sur ces mémoires-là. Elles ne sont pas rationnelles. Donc, si on essaie de rationaliser la peur de prendre l'avion, on se trompe. La seule manière qu'on est capable de le faire, c'est de repasser par le corps et de sentir qu'on est en sécurité, de respirer, de s'apaiser soi-même, de sentir qu'on est « ok, je suis dans mon siège, je suis dans le moment présent, je touche éventuellement des objets, donc des sensations corporelles vont m'aider à apaiser mes amygdales. Si je respire, on parle de cohérence cardiaque, parfois on parle de méditation aussi. Ce sont des techniques qui vont nous aider en fait à tempérer l'anxiété, alors que si on y va avec notre belle intelligence, on se gourre complètement, au contraire, on va renforcer le sentiment d'impuissance. »
Ah, j'aime ça. Est-ce que les réseaux sociaux avec les algorithmes et tout ça, ça permet à tous les humains sur Terre de voir la vie telle qu'elle est ou de voir la vie telle qu'elle pense qu'elle est, cette vie-là, parce qu'on se rassemble. Exemple, quand on parlait des conspirationnistes, ben à un moment donné, tu te rends compte que « Ah, ben moi, je pense que le gouvernement américain, il y a quelque chose à voir là-dessus. » Puis là, tout d'un coup, tu as plein d'amis sur Facebook que tu connais pas qui pensent à peu près la même chose que toi. Fait que tu as l'impression que tout le monde pense comme toi, alors que c'est peut-être un 5 % un 2 % un 3 % Les algorithmes, ce qui nuit justement à ces fameux biais?
En fait, non. C'est assez intéressant parce qu'il y a plusieurs études qui viennent de sortir récemment qui nous démontrent justement que les algorithmes ne font même pas renforcer, par exemple, des impressions de conspiration. C'est assez intéressant parce que tu as, pendant la pandémie, tu as toute une série de personnes qui se sont présentées comme des experts, qui ont parlé de chambre d'écho et ainsi de suite. Et on s'est rendu compte, en fait, que ces experts-là faisaient exactement l'inverse. Plus ils en parlent, plus ils renforcent à la rigueur les idées. En fait, pourquoi? Parce qu'on perd confiance dans l'élite. On perd confiance dans des entreprises, même que ce soit, par exemple, Québecor, que ce soit Radio-Canada ou autre. On a l'impression parfois que ces personnes-là sont au service de l'élite et c'est ça qui nous fait perdre confiance, en fait, à l'environnement dans lequel on vit. Et si éventuellement j'utilise le réseau social, je me rends compte qu'il y a 4, 5, 6, 10 personnes, 15 % de personnes qui pensent comme moi. Mais c'est plus la remise en question de la manière dont on va parler des enjeux sociaux qui va se faire plutôt qu'un renforcement éventuel des idées complotistes ou des idées de ceci ou de cela. Et que le principal moteur en fait, des gens, c'est avant toute chose, c'est leur condition sociale. C'est est-ce qu'ils vivent bien? Est-ce qu'ils font partie de la classe des personnes les plus en difficulté? Est-ce qu'ils font partie de la classe moyenne? Est-ce qu'ils font partie de la classe qui ont plus d'argent? Quelle est l'importance de l'éducation qu'ils ont reçue. Donc, éventuellement, une personne peut avoir grandi dans une famille un peu plus à droite et par réaction va vouloir se positionner à gauche, ou une personne va grandir dans une famille à droite, puis oui, OK, ça va être mes idées parce que je suis d'accord avec ce que mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père ont pu dire éventuellement. Et donc, en fait, l'origine, l'éducation a beaucoup plus d'impact, en fait, que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont, en fait, que comment dire, c'est comme si c'était une photo de mon état de pensée au moment où j'utilise, parce que l'algorithme veut répondre à mon besoin, au même titre que moi, j'adore le cerveau, j'adore la psychologie. Donc, quand je regarde des choses sur Internet, c'est certain que ça va avoir une connotation plus neurosciences, plus psychologie. Et donc, toutes les publicités que je vais recevoir, ça va être des produits, d'accord, qui vont me nourrir. Par exemple, ça peut être Harvard qui me propose un nouveau livre en psychiatrie. Ça peut être éventuellement quelqu'un qui a sorti un livre d'outils pour aider les parents à mieux fonctionner avec leurs enfants. Donc, c'est simplement une réponse, en fait, à la manière dont je vais chercher l'information sur Internet, plus que la création d'une chambre d'écho, comme certaines personnes nous l'ont fait croire il y a quelques années.
OK. Est-ce que, exemple, quelqu'un qui écoute RDI en continu du matin jusqu'au soir, même la nuit, même la fin de semaine, peut avoir une vision tronquée du monde, en ayant l'impression que la vie va toujours mal?
En fait, par définition, et tu dois le savoir parce qu'au quotidien, tu dois gérer ça, c'est que quand on a une bonne nouvelle, on n'en parle pas. Quand on a une mauvaise nouvelle, on en parle des heures et des heures et des heures. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, j'ai fait beaucoup de sorties de presse avec Sébastien Ménard, qui est l'actuel éditeur du Journal de Québec. Et chaque fois qu'on sortait une nouvelle sur le nombre de prescriptions de pilules de Ritalin, écoute, je pouvais faire des médias pendant 3 semaines, facile. Et je passais par la télé, par les radios, tout ce qui existait au Québec voulait me poser des questions là-dessus. Okay? Et en même temps, comme j'avais noué une relation amicale avec Sébastien, parfois je disais, tu sais, il y a des bonnes choses qui se passent dans nos écoles. Est-ce que tu veux que je te donne éventuellement, si les écoles l'acceptent, de l'information qui parle sur les bons coups des écoles? Et en fait, Sébastien dit, oui, tiens, pourquoi pas? Et en fait, quand on sortait une bonne nouvelle, c'était terminé. Aucune entrevue, ni radio, ni télé. Donc, on fonctionne par les mauvaises nouvelles. Alors, c'est certain que si je regarde la télévision en continu ou si j'écoute une radio parler en continu, puis ça ne veut pas dire que les radios musicales sont mieux, d'accord? Mais c'est certain que je vais me créer dans mon cerveau une idée que le monde est dangereux, que le monde représente un espace dans lequel on va vouloir me nuire. Je suis en danger. Alors, je ne suis pas en train de dire que la fraude des grands-parents n'existe pas, que les arnaques n'existent pas, que les deepfakes ne sont pas des choses qui viennent perturber la quiétude du citoyen. Je dis juste qu'il faut faire attention parce que quand on se nourrit continuellement de mauvaises informations, on oublie la beauté de la vie. Et ça, ça nous fait perdre le contrôle, si vous voulez, du plaisir de vivre. Ça nous fait perdre le sentiment du plaisir de vivre. Et c'est à ça qu'on devrait faire attention.
Est-ce qu'on comprend pourquoi le cerveau semble beaucoup plus apprécier une nouvelle négative qu'une nouvelle positive? Parce que c'est bien rare qu'on a commercialisé un journal à succès des bonnes nouvelles du matin.
Mm-hmm. En fait, ça ne marcherait pas visiblement, mais ce qu'il y a, c'est que notre cerveau est programmé pour favoriser notre adaptation et notre survie. Ça veut dire que dans l'environnement, il faut que je repère très rapidement tout ce qui pourrait représenter une menace ou un danger pour moi. Donc, je vais sélectionner instinctivement les informations qui font en sorte que je pourrais être en danger ou que mon entourage pourrait être en danger. Okay? Et je vais avoir des comportements appropriés. Je vais vouloir me protéger ou protéger les gens que j'aime, les gens qui sont autour de moi, les gens de ma communauté et ainsi de suite. Et ça demande en fait un grand effort de pouvoir arriver en fait à se concentrer sur des choses qui sont belles. Mais en même temps, plus on se concentre sur des choses qui sont belles, plus on se concentre sur, par exemple, notre enfant qui joue dans le salon ou qui est en train de dévaler une pente de ski ou un bon repas que je passe en famille, de vraiment concentrer là-dessus. Et on se rend compte qu'on diminue l'état de cortisol, on diminue en fait notre état de survie et en fait notre cerveau fonctionne même mieux. Donc, quelque part, le cerveau se nuit à lui-même quand il est trop concentré sur les mauvaises nouvelles. Et c'est à nous de prendre la décision, de dire « Ok, je prends l'information à un moment donné et je m'arrête là pour pouvoir arriver à vivre ma vie et avoir de la gratitude par rapport à ce que je vis au quotidien. »
J'adore. Autre question, c'est un autre sujet, tu vas me dire, tu as raison. Est-ce que notre cerveau, qu'on a toujours considéré comme étant une éponge à apprendre, va se transformer en jellyfish avec ChatGPT?
Je ne crois pas. Le défi, ce serait de croire que parce que ChatGPT existe, je n'ai plus d'efforts à faire pour mémoriser des connaissances, ouais, et réfléchir par moi-même, discuter avec mes amis pour mieux nuancer mes pensées, mes croyances et aider mes amis, ouais, à mieux nuancer leurs pensées et leurs croyances.
Pour les gens qui nous écoutent, qui sont dans leur voiture présentement ou qui nous écoutent en podcast par la suite, là, faisons le test ensemble. Moi, je me souviens de tous les numéros de téléphone de mon enfance. Les numéros de téléphone de mes amis, je les apprenais par cœur. Je m'en souviens encore, même si ça fait plus de 40 ans que je les ai appris. Puis, ça fait un bail que je ne les ai pas appelés. Tu comprendras ce numéro-là, parce que souvent, ils ont changé de numéro. Mais je me souviens encore de leur numéro. Mais si tu me demandais, à moi, Joël, c'est quoi le numéro de téléphone de ma conjointe? Ben encore faut-il que j'aurais une conjointe. Mais dans le cas, si tu me demandais les numéros de téléphone de mes anciennes conjointes, je n'ai aucune idée parce que je n'avais qu'à peser sur le 1 ou je n'avais qu'à peser sur le 2 pour pouvoir les rejoindre. Je me mettais...
En fait, oui. C'était déjà comme ça avant. Parce que la mémoire, c'est une faculté qui oublie.
Oui.
Et on a besoin d'oublier. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quand je suis enfant, je vais mémoriser un certain nombre d'informations essentielles pour mon plaisir, mon bien-être, ma survie.
Ouais.
D'accord? Et elles vont se stocker généralement dans des zones qui vont être beaucoup plus difficiles, en fait, à effacer. Par contre, mettons que tu as une conjointe aujourd'hui, tu veux lui téléphoner, mais tu téléphones à ton ex-conjointe. Ou vice-versa. Pourquoi? Mais donc, ça veut dire que ton cerveau doit oublier le numéro de téléphone de ton ex-conjointe pour être capable de téléphoner à ta bonne conjointe, celle que tu as aujourd'hui. OK? Donc, cette faculté d'oublier, elle est tout à fait normale. Et les cellules, en fait, de notre cerveau, qu'on appelle les neurones, vont à ce moment-là créer des connexions à certains moments et vont défaire ces connexions à d'autres moments. Et c'est cette gymnastique-là qui fait en sorte qu'on est capable de s'adapter à l'environnement dans lequel on est et de le faire. Alors, c'est certain que si je n'entraîne jamais ma mémoire D'accord? Si je ne lis pas des romans, si je ne lis pas de l'information, mettons que je vais en Grèce et j'ai envie de comprendre c'est quoi l'histoire de la Grèce, ben, je vais regarder des choses au niveau politique actuellement. Je vais peut-être regarder certains films de Costa Gavras qui parlaient justement de la dictature des généraux il y a quelques années. Je pourrais aller voir la Grèce antique. Et donc, en fait, ces informations-là, je vais les emmagasiner dans mon cerveau et elles vont créer, si tu veux, des souvenirs, ce qui fait que ça va améliorer, en fait, l'environnement pendant mon voyage éventuellement en Grèce. Et quand je verrai, mettons, un temple qui a été créé il y a 2500 ans, je vais pouvoir le reconceptualiser. Mais si après, je pars au Vietnam, d'accord? Ben, il faut que j'oublie quelque part ce que j'ai appris sur la Grèce pour mieux comprendre, d'accord, l'histoire du Vietnam. Alors oui, il y a des points de référence parce qu'il y a une dictature qui a été présente au Vietnam pendant des années. Il y a des vieux temples qui datent de plusieurs milliers d'années. Mais il faut en même temps que je fasse la part des choses. Donc la mémoire est vraiment une faculté qui va faire en sorte que on va mémoriser à un moment donné des informations qui nous sont utiles et mais les oublier pour pouvoir mettre des nouvelles informations, d'accord, qui vont nous aider à nous adapter dans le moment présent et faire ce qu'on a fait. Ce qui est important, c'est de maintenir l'exercice. Alors, si je reviens avec la notion de ChatGPT, pour moi, c'est comme une calculatrice. Tu sais, quand la calculatrice est apparue, quand toi et moi, on était des gamins et qu'on était sur les bancs d'école, on disait qu'on allait arrêter d'être
Calculer.
capable de calculer.
Ouais.
Or, ce n'est pas vrai parce que si je suis capable de pouvoir anticiper une certaine réponse, c'est certain que ma calculatrice va me donner une réponse très précise, d'accord? Peut-être à la septième décimale, mais ma manière de calculer fait en sorte que je peux quand même valider ce que la calculatrice va me donner comme information. Donc, ChatGPT, Gemini, Claude ou d'autres IA qui sont disponibles aujourd'hui nous permettent de réfléchir, de travailler avec, mais si on a accumulé des connaissances en français, en histoire, en géographie, en philosophie et autres, on va être capable de valider, tiens, ce que l'outil me donne pour l'instant. Est-ce que c'est une information qui semble fiable ou c'est une information qui est probablement erronée? On a la même chose avec Wikipédia. Il y a de très bonnes informations sur Wikipédia, mais aussi des cochonneries sur Wikipédia
Ouais.
qui font en sorte que finalement, c'est cette gymnastique de pouvoir arriver à se poser la question, est-ce que l'information que je reçois est valide ou elle est potentiellement erronée? Le doute que l'on peut avoir fait partie de la solution pour être capable d'arriver d'acquérir des bonnes connaissances.
Mais exemple pour les écoles primaires, les écoles secondaires, cégep, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'étudiants pour des textes en français, exemple, qui utilisaient ChatGPT pour corriger les fautes. Encore pire, pour mettre une certaine structure dans le texte. Je pense que quand on commence à écrire en français, on commence à faire des textes, mais on apprend la structure à l'école, puis par la suite, on est capable de faire des textes qui se tiennent avec un certain développement, mais si c'est ChatGPT qui le fait automatiquement pour nous, Joël, ça n'a pas un impact rendu au secondaire, rendu au cégep, rendu à l'université. Est-ce qu'on n'a pas un manque justement parce qu'on utilise cet outil-là?
Mais en fait, ça dépend toujours de la manière dont tu utilises l'intelligence artificielle. Par exemple, quand moi j'écris un article, d'accord, je peux demander, moi j'utilise beaucoup Gemini parce que Gemini est collé en fait à Google Scholar, donc à PubMed, donc ce sont des articles scientifiques très utiles. Pour moi, Gemini est un meilleur outil mais qui est peut-être pas utile pour d'autres personnes. Je peux par exemple demander, ben, cite-moi 5 articles qui répondent à telle question. Donc à ce moment-là, il va extraire de Google Scholar 5 articles que moi je vais pouvoir aller en fait lire réellement et analyser. Donc ça veut dire que j'utilise l'outil, d'accord, de manière en fait à gagner du temps pour être capable d'identifier. Sinon, ça me prend beaucoup plus de temps pour fouiller. Je vais peut-être devoir écrire, lire 100 articles pour avoir les 5 en question. Donc, c'est une perte de temps massive, alors que quand j'utilise l'outil, ben, ça me permet d'aller plus vite. Mais ça n'empêchera pas la nécessité de lire l'article, de voir les biais dans l'article, de voir les limites de l'article. Et ça, l'intelligence artificielle n'est pas encore capable de pouvoir répondre à ce genre de questions-là. Donc, si on apprend aux jeunes à bien utiliser les outils de l'IA et de leur dire, ben, regarde, posez des questions à l'IA, vérifiez, challengez-vous à l'intérieur de l'IA, ça va juste être un outil, d'accord, qui va leur permettre de réfléchir plus longtemps. Mais le vrai test, ce sera, si moi je suis professeur au secondaire, d'accord, ou au cégep ou à l'université, ce sera, hey, on fait une rédaction dans la classe. Et c'est dans la classe que je vais évaluer la capacité de mon jeune ou de mes jeunes à pouvoir penser, réfléchir. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que le professeur, avec l'art dramatique, par exemple, ou avec des cercles de parole, peut amener les élèves à devoir s'exprimer sur un sujet. Et donc, à partir de ce moment-là, ils vont utiliser leur compréhension. Peut-être qu'ils sont allés gagner de l'information sur ChatGPT, Wikipédia ou ailleurs, d'accord, comme on aurait pu le faire avec une encyclopédie. Mais c'est au moment où je leur demande de s'exprimer sur un phénomène particulier que je les aide à construire leur pensée, que je les aide à nuancer. Donc, si on est 15 dans mon groupe, d'accord, et que chacun donne sa perception d'un même phénomène, mais ça me permet d'entendre les autres et de co-construire avec eux une certaine idée de ce phénomène avec toutes les nuances que cela peut faire. Donc, ça va simplement, ChatGPT et autres vont simplement nous amener à devoir travailler autrement avec nos élèves, travailler autrement, en fait, de manière à s'assurer qu'on maintienne un haut degré de réflexion, de doute, d'exploration, de curiosité. Et en fait, quelque part, tu sais, je donnais une conférence au Barreau hier et je disais, dans les années 90-2000, il y avait la fameuse revanche des nerds. D'accord, il y avait même une émission de Patrick Marius-Bourriane à ce propos-là. Et pour l'instant, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est la revanche des sciences molles. On a méprisé les sciences molles pendant très longtemps, d'accord, en disant que ce n'était pas assez, basé sur de la science mesurable en question, alors qu'au contraire, les outils de la technologie actuellement vont nous amener à avoir des ressources très intéressantes pour accéder à la connaissance. Mais ce qui va faire la différence, c'est notre émotion. C'est l'être humain que nous sommes, engagé, impliqué, écoute, empathique, et ça, une IA ne le fera jamais.
Je t'avoue que moi, j'ai certaines lacunes parce que depuis que j'ai les technologies, on dirait que mon cerveau est un peu plus lâche. Donc, au lieu d'écrire moi-même mes textes à la main avec un crayon, ben, je le fais avec mon ordinateur et c'est tout le temps des belles lettres qui se suivent. Puis en bout de ligne, ça fait un texte. Puis j'ai eu la chance d'avoir été éduqué sur le sens du monde avec mes professeurs. J'ai eu d'excellents profs de français. Parfois, quand ils m'entendent, j'imagine qu'ils doivent se retourner dans leur tombe là, parce que des fois, je salis mon français sans vouloir le salir. Je me trompe sur les masculins et féminins. Mais il n'en demeure pas moins que j'avais une belle éducation au niveau du français. Puis à l'école, ça a relativement tout le temps bien été. Mes grands-parents, ma grand-mère et mon grand-père, je ne sais pas si tu as connu cette expression-là, mais ils avaient obtenu le cours classique.
Oui.
Donc, ça s'appelait le cours classique. Il y avait une écriture à la main, Joël, là, qui était d'une beauté. À chaque fois que ces deux personnes-là écrivaient un texte, c'était une œuvre d'art juste à regarder, puis au niveau de la conceptualisation de ce texte-là. Et à un moment donné, ça fait peut-être 3 semaines, 1 mois, j'avais à composer avec mon gars une carte de souhait pour sa mère. Et j'ai demandé à mon gars d'écrire et je me suis rendu compte que mon gars n'était pas capable à 12 ans d'écrire en lettres attachées parce qu'aujourd'hui, les lettres attachées, ça n'existe plus pour cette génération-là. Et moi, quand j'ai pris le crayon pour écrire en lettres attachées telles que je l'ai connu, j'ai de la misère à faire ce que j'étais capable de faire avant. Je suis tellement habitué de travailler avec mon cellulaire maintenant ou avec mon ordinateur portable que je ne prends plus la peine d'écrire. On est en train de perdre des trucs qu'on faisait quand on était beaucoup plus jeune. Dans mon cas, moi, je trouve ça inquiétant, là.
Mais tu vois, là, je vais critiquer allègrement mes collègues universitaires parce que, quelque part, c'est une bonne partie de leur faute.
Ah oui?
Par exemple, ben oui, premièrement, tu as des gens qui ont été financés par des compagnies qui produisaient des logiciels, qui ont vanté le mérite justement d'utiliser de plus en plus de logiciels pour être capable de pouvoir faire des apprentissages. Et on se rend compte que c'est peut-être pas nécessairement la meilleure des choses. L'autre problème, c'est les fameuses données probantes. Ce qui a été démontré, c'est par exemple un élève lit beaucoup plus rapidement et écrit beaucoup plus rapidement par lettres détachées que par lettres attachées. Donc, à partir de ce moment-là, bien, il y a eu une grosse pression pour que les enseignantes en première et deuxième année primaire s'intéressent beaucoup plus aux lettres séparées qu'aux lettres attachées,
ce
qu'on appelle l'écriture cursive. Donc, c'est vraiment, en fait, une problématique de l'université. Puis je suis un universitaire, j'adore l'université, j'adore apprendre. Donc, comme je te disais tantôt, j'ai fait des longues études. Mais en même temps, bien, il y a des biais. Dans le monde universitaire, c'est que parfois on est un peu trop dans notre tête et on oublie la réalité du terrain. Et en fait, un élève qui écrit de manière cursive se crée beaucoup plus de mémoire au niveau de sa capacité. C'est comme si la capacité motrice et la compréhension orthographique, d'accord, du mot sont beaucoup plus facilement associés quand on fait une écriture cursive parce qu'on a une image globale du mot bien plus que de l'écriture détachée. Et ça fait en sorte qu'à ce moment-là, plus on est dans... Oui, on va lire plus vite, on écrira plus vite avec des lettres détachées, mais à terme, on va faire beaucoup plus de fautes d'orthographe. Et c'est ça qui devient problématique. Donc, l'idéal, c'est d'avoir les deux. C'est-à-dire que le professeur soit amené aussi bien à utiliser l'écriture détachée que l'écriture cursive pour faire en sorte qu'à la fois, on est capable de lire vite, mais on est capable aussi d'avoir une image de chacun de nos mots qui vont guider la qualité de notre orthographe. D'accord? Et comme je disais tantôt, la mémoire motrice, quand j'écris, d'accord, je garde aussi une certaine, si tu veux, tantôt je te disais que les neurones ont des mémoires, si tu veux, donc je peux associer des neurones qui sont liés au langage et des neurones qui sont, utilisés avec l'écriture. Et l'écriture d'un mot, comme lapin, je ne vois pas le L tout seul, je vois le L automatiquement avec le A, le P, le I et le N. Je suis même peut-être en train d'imaginer un lapin qui est en train de gambader dans ma prairie ou dans mon jardin ou en train de manger une carotte. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits neurones qui vont s'associer ensemble et qui vont faire vivre le mot. Et c'est beaucoup plus facile de cette manière-là à associer un lapin, des lapins, et je sais que quand j'ai des lapins, je vais mettre un S à lapin parce que ça devient une image, il y a un vécu avec ce mot-là, ce qui est beaucoup plus compliqué à avoir quand les lettres sont détachées parce que c'est comme si je sépare en fait la connaissance du mot lapin. Ce n'est plus une entité complète, ça devient une séquence de lettres détachées et c'est là que je fais plus de fautes d'orthographe dans un moment pareil.
On a beaucoup d'anglicisme aussi dans notre société, puis je mettais la faute un peu sur l'anglais pour ce qui est de la facilité, exemple pour les élèves du secondaire et du cégep et même de l'université, à écrire en français. On a de plus en plus de lacunes, on a une faible qualité du français, ça a été constaté au cégep entre autres. Tu l'expliques comment? Cette faible qualité du français-là rendu au cégep, des jeunes qui sont incapables de faire des conjugaisons qui sont relativement quand même assez simples. Je te parlais du masculin puis du féminin tout à l'heure. Tu sais, tout dépendant où tu habites, à Québec ou à Montréal, ben, à Québec, c'est l'abus, puis à Montréal, c'est le boss. Donc, on comprend que pour quelqu'un de Québec, l'abus, c'est une autobus. Pour quelqu'un de Montréal, c'est le boss, donc c'est un autobus. On arrive au cégep, puis on se dit, attends un peu, là, je fais mes tests de français, puis je suis vraiment pourri. T'expliques ça comment?
Mais en fait, toutes les régions, où qu'on soit dans le monde, il y a toujours eu des mots ou des prononciations qui sont typiques de la région dans laquelle on peut être. Si tu regardes la Suisse, la Belgique ou la France, chaque région va avoir son propre vocabulaire. Ce sont des dialectes, d'accord, souvent inspirés des langues locales qui font en sorte qu'il va y avoir une prononciation potentiellement différente. Cela dit, on parle un français international, donc on est obligé de se baser sur ce que l'Académie française nous propose en fait comme écriture. Et c'est un bus, techniquement, le bus est masculin. Cela dit, je dirais que les Anglais rient souvent de nous. Comment ça se fait que le bus a un sexe? Donc, eux, ils vont utiliser le genre neutre pour les objets, parce qu'un objet, par définition, n'est pas genré. D'accord? Donc, c'est un jeu de français, c'est un jeu d'habitude en tant que tel. Maintenant, qu'est-ce qui vient nuire à l'apprentissage du français et à l'apprentissage même des nuances dans notre discours? C'est notamment l'accès aux tablettes qui pose problème. Écoute, l'Institut de statistique du Québec fait une analyse tous les 5 ans de la qualité, en fait, ou tout le moins de la vulnérabilité, de l'état de vulnérabilité des élèves quand ils rentrent en maternelle. Donc, on a eu des données en 2012, en 2017 et en 2022. Actuellement, les jeunes qui sont au niveau cégep, d'accord, c'est ceux qui étaient dans la cohorte de 2012, d'accord, qui ont été évalués il y a 14 ans. OK? Tu mets 14 ans plus 4, ça fait 18, ils sont au cégep. On voyait déjà à ce moment-là, en fait, qu'il y avait près de 27-28 % de jeunes qui avaient au moins une vulnérabilité dans au moins une sphère de son développement. Langage, communication, gestion des émotions, psychomotricité et ainsi de suite. D'accord? Et en fait, on voit que les données de l'ECDEM, de 5 ans en 5 ans, c'est de pire en pire. Et qu'est-ce qui fait que c'est de pire en pire? Un des éléments majeurs qui influe, c'est l'accès aux tablettes et aux téléphones cellulaires beaucoup trop tôt pour un enfant. En fait, on se rend compte que chez des enfants qui ont accès, papa, maman croient que c'est une bonne chose de leur donner le téléphone au restaurant ou avant d'aller à un rendez-vous chez le médecin ou éventuellement, comment dire, pour s'occuper d'un petit frère ou d'une petite sœur ou de faire la cuisine. D'accord, donc on va donner la tablette, on va donner le téléphone et quelque part, oui, c'est vrai que ça joue un peu un rôle de tempérance pour le jeune pour ne pas qu'il dérange l'entourage au moment où les adultes ne sont pas disponibles. D'accord, d'un point de vue humain, c'est compréhensible. Le problème, c'est que si l'enfant est trop souvent sur une tablette ou trop souvent sur un téléphone intelligent, qui sont souvent des outils très intuitifs et ils ont une aisance incroyable quand ils utilisent ces choses-là, le problème, c'est que déjà en 2016-2017, on mesurait qu'il y avait une perte de 40% de l'accès aux mots. Donc, ça veut dire que les enfants en 2016-2017, même s'ils sont dans un environnement, mettons la société, la classe moyenne, donc relativement aisée, parents universitaires et ainsi de suite, d'accord, ou tout au moins qui ont réussi en entreprise et ainsi de suite, eh bien, ces enfants se retrouvaient avec une qualité de français similaire à celle d'il y a 20 ans dans les familles ultra pauvres. D'accord? Donc, il y a un affaiblissement de la connaissance de notre français. Et ça, malheureusement, ça pose problème. Un autre élément aussi, c'est toute une série de militants qui font croire que d'être francophone blanc au Québec, c'est nécessairement, on porte la probe d'être responsable, en fait, de la conquête de l'Amérique du Nord il y a 300, 400, 500 ans, d'accord? Comme si on était responsable du massacre des Premières Nations. Et il y a comme une difficulté pour beaucoup de jeunes de considérer le français comme une richesse. Ça devient comme quelque chose d'extrêmement négatif. Donc, je ne veux pas parler français parce que les Français sont responsables d'avoir maltraité les Premières Nations. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des drames, il y a eu des choses effroyables qui ont été vécues par les Premières Nations. Mais nous ne sommes pas responsables aujourd'hui de ce qui a été fait par les ancêtres. D'accord? On est responsable de ce qu'on fait aujourd'hui dans le moment présent. Et il y a beaucoup de mains tendues vers les Premières Nations et les Premières Nations nous donnent les mains tendues également. Donc, c'est comme s'il y a de la difficulté à oser s'identifier aux Français. Donc, si moi, je n'ose pas m'identifier à ma culture de base, pourquoi est-ce que je parlerais? Et j'ai peut-être l'illusion qu'en parlant en anglais, je serais moins associé aux gens qui ont maltraité les Premières Nations.
Mais même moi, au cégep, mais prenons le secondaire, ça va être plus facile. On me parlait régulièrement de l'importance des mathématiques. On me parlait régulièrement de l'importance de la chimie, de la physique. Il y avait un certain challenge avec l'éducation physique, les mathématiques, la chimie, la physique. Ce qu'on n'avait pas l'impression avec la langue française.
Non, puis tu sais, quand Chantal, je te disais qu'on a méprisé longtemps les sciences molles, c'est comme si tout ce qui était sociologie, français, contact, communication avec autrui n'était pas important. Donc, en méprisant, en fait, ces secteurs de notre vie, pourtant, Dieu sait si c'est important de comprendre la sociologie, la psychologie ou la communication les uns avec les autres, c'est la base de la vie sociale, d'accord? Mais comme on les a méprisés pendant des années, bien, c'est certain qu'on a peut-être mis un peu moins d'intérêt. Cela dit, est-ce que c'est le seul phénomène dans nos écoles? Moi, je pense qu'il y a peut-être une erreur d'avoir voulu... Tu sais, à la base, c'est un projet extrêmement noble. On veut mettre les enfants en contact avec toutes les cultures et toutes les facettes de notre société. Donc, nos classes doivent être les plus hétérogènes possibles pour refléter, d'accord, la réalité de la vie. Donc, il y en a qui vont voir beaucoup de facilité pour apprendre, il y en a qui seront dans la moyenne et il y en a qui vont en arracher. Et on se dit, ben, en fait, c'est comme ça qu'on va favoriser. Et c'est vrai qu'il y a certaines études qui semblent dire que les enfants qui ont plus de facilité deviennent des modèles pour ceux qui ont plus de difficultés. Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas créé, en fait, un nivellement vers le bas ou finalement, en empêchant, par exemple, un élève de redoubler, d'accord, pour ne pas qu'il se sente mal et que son estime de soi soit atteinte, mais finalement, ben, il accumule D'accord, de plus en plus de lacunes, de plus en plus de lacunes, de plus en plus de lacunes. Donc oui, il va être diplômé éventuellement à la fin de son secondaire, mais est-ce qu'il aura acquis ce qu'il aurait dû acquérir? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des classes parfois où on va prendre des élèves plus en difficulté avec des plus petits groupes pour faire des activités qui sont très ciblées en fonction de leurs défis et peut-être proposer d'autres activités à ceux qui ont plus de facilité. Et il y a un truc qui était particulier dans la pandémie. J'adore Régis Droyer. C'est un homme, un collègue que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a un élément sur lequel on n'était pas d'accord, c'est que, bon, depuis longtemps, c'est que lui dit la taille de la classe n'influe pas sur la performance des élèves. Moi, j'ai toujours dit c'est le contraire. Plus la classe est plus petite, plus on va avoir, en fait, un meilleur apprentissage des élèves. Et pendant qu'on a eu des classes bulles, ça date de 2020. Vous vous souvenez, au printemps, à part les gens de Montréal, la plupart des écoles ont réouvert à travers le Québec pendant 7 semaines. D'accord? Et durant cette période-là, les élèves avaient un professeur, tout le temps le même professeur, et ils étaient un maximum de 10 dans le groupe classe. Et en fait, l'Association des orthopédagogues a pris des mesures pendant cette période-là, et ils sont revenus, en fait, tant Égide que eux et les autres professionnels ont siégé sur des comités qui ont été mis en place par Jean-François Roberge, qui à l'époque était le ministre de l'Éducation, d'accord? Et les informations qu'on avait par l'Association des orthopédagogues, on s'était rendu compte que des élèves qui avaient 2 ans de retard sur leurs apprentissages, en l'espace de 7 semaines, avec un seul prof, petit groupe, avaient été capables de pouvoir rattraper, en fait, le groupe classe normal. Donc, on se rend compte, en fait, que l'organisation de nos écoles, l'organisation de nos classes, puis je sais qu'on manque de professeurs, d'accord, je ne suis pas en train de nier ce phénomène-là, mais en même temps, peut-être qu'il y a trop de monde dans la classe pour être capable de pouvoir permettre à l'enseignant de faire son travail pour le mieux et de permettre à l'élève de pouvoir embarquer dans le processus éducatif nécessaire pour pouvoir essayer d'apprendre. Donc, il va falloir réorganiser nos écoles. Et je crois que si on a un gouvernement qui veut vraiment donner la possibilité à notre société de s'émanciper, d'être capable de réfléchir, d'être capable d'avoir une orthographe impeccable et d'avoir une culture francophone incroyablement solide en Amérique du Nord, il va falloir réduire le nombre d'élèves de classe.
J'avais vu une statistique, je ne sais pas si c'est encore valable aujourd'hui, mais on disait qu'à peu près 50% des adultes qui étaient âgés entre 16 puis 65 ans qui avaient des compétences en littératie qui étaient inférieures au niveau 3, ce qui était considéré comme le minimum pour lire, comprendre et agir de manière autonome. Et parmi ces 50% ou 52, là, plus précisément, c'est ce qu'on mentionne dans l'article, ben il y a environ 22% qui se situent au niveau les plus bas, ce qui indique de très grandes difficultés en lecture et compréhension. Et ça représenterait au Québec entre 2,6 et 2,7 millions d'adultes avec des compétences limitées, là. Ça peut avoir des impacts dans la société, là.
Oui, tout à fait. Puis ça va avoir un impact sur leur capacité de s'adapter. Ça va avoir un impact sur leur capacité d'être autonome. Ça va être puis même remplir simplement une déclaration d'impôt. Et ça te demande de réfléchir, ça te demande de comprendre le français. Donc, automatiquement, ce sont des personnes qui vont avoir beaucoup plus de difficultés. Et puis, c'est là que je reviens, en fait, à la nécessité de réorganiser nos écoles. C'est que nous devrions avoir comme projet de société d'augmenter le nombre de professeurs et réduire la taille des classes pour justement réduire le risque de décrochage en termes de langage, de compétences en mathématiques ou de sociologie pour faire en sorte qu'on soit beaucoup plus autonome.
Mais c'est quand même particulier, là. Les gens, ils votent, là.
Oui.
Les gens, ils votent, mettons, ils votent sur quoi, là? Ils sont incapables de lire un programme de parti?
Mais en fait, qui vraiment lit les programmes des partis? Tu sais, je me souviens qu'à un moment donné, Jean-François Lisée avait fait, à l'époque où il était chef de PQ, il avait fait la réflexion que le programme, en fait, du Québec solidaire, il y avait 800 pages et elles étaient continuellement réajustées en fonction d'un petit groupe de personnes qui travaillaient. Il avait appelé ça à ce moment-là le Politburo. Bon, ça ne lui a pas porté chance, mais c'est certain que la plupart des gens ne vont pas faire attention à ce que le parti propose. Alors, c'est certain qu'il y a des bons outils. Je pense à Québec 125, notamment, qui propose des sondages. Radio-Can le fait aussi. Propose des sondages. Ben voilà, répondez à nos questions et on va vous dire c'est quoi le parti qui correspond le plus en fait, à vos croyances ou à vos pensées politiques. Donc, quelque part, les médias, puis de nouveau, c'est deux belles choses. On a besoin de Radio-Can et on a besoin de Québec 125. Mais si je deviens paresseux et que je me contente simplement de participer à ce type d'outil, enfin, d'utiliser ce type d'outil, je perds la capacité de réfléchir parce qu'on me dit qu'est-ce que je devrais voter? Quel est le parti qui correspond dans qu'il y en a d'autres? Ça ne veut pas dire que je ne peux pas utiliser l'outil, mais c'est important d'écouter les discours politiques. C'est important de s'intéresser à ce qu'on dit, à ce que chacun dit. Tu sais, on a une course à la chefferie actuellement. Est-ce que c'est Christine ou c'est Bernard qui semble plus cohérent avec mes pensées ou mes croyances? Il faut que je prenne le temps d'écouter le débat. Si je n'ai pas le droit de vote pour le voter nouveau chef, bon, ben, tant pis, mais j'aurai le 6 octobre une occasion de pouvoir appliquer mon vote. Mais je dois faire l'effort de m'intéresser à ce que les différents partis, et je dois aller chercher plusieurs médias. Ça veut dire que je vais écouter BLVD et Cube, d'accord, qui vont me donner éventuellement une vision des choses, mais c'est intéressant d'aller regarder d'autres médias sur le côté qui vont me permettre de me créer petit à petit une idée. Puis encore mieux, j'en parle avec mes amis. J'apprends à dialoguer. On n'est pas d'accord, mais c'est correct. Tant mieux, même à la rigueur, qu'on ne soit pas d'accord, parce que ça va faire en sorte que l'un comme l'autre, on va être capable de mieux nuancer notre pensée. Donc, on va être plus capable de pouvoir lire, comprendre et s'impliquer comme citoyen.
Exact. Ce soir, on a le plaisir de passer la soirée avec l'auteur, conférencier et formateur international Joël Mosé et les docteurs en neurosciences. On fait une courte pause et on vient tout de suite.
Marceau, le soir. Marceau, le matin.
Nous, M. Drainville, bonjour. Si vous êtes élu premier ministre, est-ce que vous allez mettre sur pause le projet de tram cité le temps que le financement du fédéral soit confirmé?
Le fédéral nous a dit qu'il paierait 40 % ses 3 milliards. À date, ils mettent 1,4. Bien, la différence entre 3 puis 1,4, il va falloir que le fédéral le confirme.
Et vous, vous voulez un pourcentage?
Bien,
pour un gars de droite économique, un peu d'irresponsabilité à amener ça, là.
Bien, non. Le gars de droite économique veut s'assurer que quelqu'un va payer la facture en bout de ligne, là.
Parce que le projet, si, veux dire, si eux autres, ils payent pas leur pan, c'est qui tu penses qui va payer?
c'est Bibi ici.
Jusqu'à quel montant vous êtes prêt à aller?
Il faut espérer que ce maudit projet-là va finir par se faire un coût raisonnable.
Ce maudit pas dire... projet-là?
Bien, c'est un projet, qu'est-ce que tu veux, qui fait jaser puis qui est controversé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Marceau, le matin. En semaine, 6h.
Vous cherchez un condo à Lévis avec gym, piscine extérieure, lounge et qui accepte votre toutou? Découvrez l'Archipel. Promotion en cours, détails au appartementurbain.ca.
Le printemps arrive et les routes vous attendent. Chez Volkswagen Saint-Nicolas, profitez de 90 jours avant votre premier paiement sur le financement de votre prochain Volkswagen neuf. Une offre applicable sur tous nos modèles. Avec un large inventaire disponible, c'est le moment parfait pour passer au volant d'un Volkswagen. Volkswagen Saint-Nicolas, choisissez le vôtre dès aujourd'hui.
Le printemps arrive, c'est le moment parfait pour améliorer votre confort. Jusqu'au 30 avril, obtenez jusqu'à 1 000 $ de rabais à l'achat d'équipements chez Enviro-Confort. Bénéficiez aussi des remises des manufacturiers ainsi que des subventions gouvernementales actuellement disponibles pour un maximum d'économies. Thermopompe, chauffage, climatisation, économisez maintenant et soyez prêts pour l'été. Enviro-Confort, le choix des consommateurs numéro 1 en chauffage et climatisation.
Enviro-Confort.com.
Le Rodéo de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier revient en force pour sa 27e édition. 3 rodéos, mini-rodéos, derby d'attelage, tir de chevaux, spectacles musicaux gratuits et plusieurs nouveautés. Procurez-vous vos billets en ligne sur lepointdevente.com. Devenez super bénévole au rodéo-scjc.com.
Les longues soirées d'hiver, c'est encore meilleur autour d'un jeu de société Passe-temps 3000. Un choix incroyable de jeux pour tous les goûts et tous les âges. Et avec tout achat de 40 $ et plus, recevez une carte cadeau de 10 $. Passe-temps 3000, 445 rue Soumande.
Chez Desjardins Assurance, c'est pas d'hier qu'on fait économiser.
OK, ça change quoi?
Ben, vous pourriez épargner jusqu'à 600 $ en combinant vos assurances auto et habitation.
Ah ouais?
Ouais. Demandez une soumission. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s'appliquer.
Vous déménagez bientôt? Simplifiez-vous la vie avec Soumission Déménageur. Un seul formulaire vous permet de comparer gratuitement jusqu'à 5 prix de compagnies de déménagement fiables et certifiées. Rapide, simple et partout au Québec. Soumission Déménageur, plus de 150 entreprises à votre service.
Les dernières années ont été marquées par une augmentation du coût de la vie. Devant cette situation, le gouvernement du Québec a mis à votre disposition plusieurs mesures pour remettre de l'argent dans votre portefeuille. Tel qu'un montant de 300 $ tous les 24 mois pour les lunettes ou les verres de contact des jeunes de moins de 18 ans, ou encore une aide financière accrue aux aînés. Découvrez toutes les mesures mises à votre disposition sur québec.ca/portefeuille-québécois. Un message du gouvernement du Québec.
Chez Lévis Subaru, découvrez le VUS électrique parfait pour l'hiver. La Subaru Solterra 2026 impressionne par sa performance et sa traction intégrale. En ce moment, profitez d'un rabais exceptionnel pouvant aller jusqu'à 13 500. Venez l'essayer dès maintenant chez Lévis Subaru. LévisSubaru.com.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez la roulette au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
CTB Construction est à la recherche de compagnons d'expérience en construction neuve et en rénovation majeure. Chez nous, on travaille à l'année. Salaire payé décret en tout temps et des chantiers le plus près possible de chez vous. Ajoutez à ça une prime d'embauche. Postulez maintenant au carrière.fm.
Maintenant, le petit Julien va vous interpréter une pièce pleine de vie, la sonate numéro 11 de Mozart. À toi, Julien.
Pour un jeune, vivre avec un abus sexuel, ça pèse lourd sur le cœur. Heureusement, l'équipe de Marie-Vincent est là pour alléger le fardeau des jeunes victimes de violences sexuelles. Donnez généreusement à marievincent.org.
Osez vous perdre dans le bleu infini. Ralentir pour mieux découvrir. Sentez-vous libre, vraiment libre. Les îles de Guadeloupe, ça se prend bien. Disponible en vol direct de Québec.
Le Patron Lapin est de retour. Achetez un chocolat de Pâques et courez la chance de gagner un de nos trois prix d'une valeur totale de 5000 $. Chaque lapin vendu soutient les activités du Patron. Croquez pour le Patron et gagnez gros. Détails sur patrolapin.com.
Multiconfort FP vous rappelle que c'est le moment de vous préparer pour la chaleur de l'été avec 15 % de rabais sur les installations. Financement disponible. Cet été, choisissez le confort, choisissez Multiconfort FP. Multiconfort FP en face de l'aéroport.
Le printemps arrive chez Lévis Ford. Pour un temps limité, à l'achat d'un véhicule neuf, recevez un plan d'entretien gratuit, incluant vos deux premiers changements d'huile et les permutations de pneus. Passez-nous voir dès aujourd'hui chez Lévis Ford, les forts de Lévis.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock?
Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Dans Marceau Soir, on passe la soirée avec Joël Monzé, les docteurs en neurosciences. Joël, on voulait parler des fact-checkers ce soir. Qu'est-ce qu'un fact-checker? Des fois, on voit ça, on a l'impression, ah, ça, c'est une fausse nouvelle. Puis finalement, quelques jours plus tard, bien, on voit sur le site exemple de Radio-Canada des fact-checkers qui se sont penchés sur cet article-là en particulier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est en partie vrai, en partie faux? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Moi, je trouve ça franchement intéressant. Mais toi, tu as des choses à dire concernant les fameux fact-checkers.
Mais en fait, il y a plusieurs études qui sont sorties dans les dernières années pour analyser justement est-ce que les fact-checkers aident vraiment à la santé démocratique ou pas. Et en fait, on se rend compte que c'est exactement l'inverse. Ah. Parce que ça renforce exactement. Tu sais, il y a un adage en politique, parle de moi en bien ou en mal, mais parle de moi.
Ouais.
Autrement dit, ce que les études, par exemple, disaient par rapport à notre président voisin, c'est qu'il peut se permettre de dire des faussetés. Il sait très bien que son électorat fait la différence, en fait, entre la réalité et la fausse nouvelle. Donc, il faut arrêter d'imaginer que les gens sont des imbéciles. Les gens sont beaucoup plus intelligents qu'on ne le croit. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'important, c'est qu'on parle d'eux. Donc, plus on parle, à la rigueur, d'une fausse information qui a été exposée éventuellement dans un discours politique ou autre, et plus la personne est mise en valeur et plus il y a des chances qu'on aille voter pour cette personne-là. Donc, ça fait exactement l'effet inverse.
Okay.
L'autre chose aussi qui est particulière, c'est le biais que la personne peut avoir. Tu sais, il y a beaucoup de vulgarisateurs scientifiques, ce sont des bonnes personnes, je peux les apprécier sur le plan humain, mais parfois, ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour amener des nuances. Et je vais citer deux émissions qui, moi, m'inquiètent généralement, Le Pharmacien et Les Décrypteurs. D'accord? Ce sont deux émissions avec des très bons vulgarisateurs scientifiques, mais ils n'ont jamais fait vraiment de recherche. Ils n'ont jamais fait vraiment d'écriture d'un article scientifique. Ils n'ont jamais été amené à devoir discuter dans une conférence ou dans un club de lecture des différentes nuances nécessaires à apporter par rapport à des données scientifiques que l'on pourrait exposer. Par définition, la science, c'est des contradictions tout le temps, parce qu'on ne peut jamais reproduire dans un laboratoire la complexité de l'expérience humaine ou la complexité de la manière dont la planète Terre, les phénomènes physiques s'organisent éventuellement, ou même l'histoire, je veux dire, on peut avoir une certaine idée de Napoléon, d'accord, ou de Jules César, mais ça reste quand même que ce sont des déductions plutôt que des faits scientifiques mesurés en tant que tels. Et la science, c'est le plaisir d'être dans les contradictions, de jouer avec les contradictions et de donner une interprétation. Mais par définition, toute interprétation est soumise à des biais cognitifs. Donc, si j'ai un biais cognitif quand j'écris quelque chose ou quand j'anime éventuellement une émission, ben, et que je ne dénonce pas mon biais cognitif, je risque autant d'interpréter l'information.
Ouais. Mais dans le cas du grand orange de l'autre côté, Donald Trump, qui mentionne que le Canada est une passoire au niveau du fentanyl, puis au niveau des armes, et après ça, ben, justifie ça par la hausse des frais qui nous chargent supplémentaires. Quand on regarde ça, on se rend compte, OK, attends un peu, là, c'est plus le fentanyl vient du Mexique, il vient pas du Canada. C'est important de le mentionner, ça, parce que la hausse des tarifs, ça nous touche en tant que Canadiens. Puis de voir que Trump utilise l'histoire du fentanyl alors que c'est pas vrai, ben, ça nous donne peut-être une meilleure vision de qui est le voisin de l'autre côté.
Mais ça dépend, c'est quoi son ambition politique? Tu sais, il y a eu un très beau reportage sur TVA récemment qui montrait comment les trains se faisaient arrêter, mettre la drogue dedans et que la drogue arrivait au Canada. Donc ça, je pense que le travail d'enquête des journalistes est très important. Pour moi, ça, c'est pas un fact-checker. C'est quoi la réalité? C'est un documentaire. On prend la peine, une demi-heure, une heure, d'exposer en fait l'ensemble du phénomène. Ça veut pas dire que dans tous les trains, il y a éventuellement de la drogue. Ce que moi, je proche parfois aux fact-checkers, surtout dans le domaine de la politique, c'est que Donald Trump a une raison derrière ça. C'est que tu ne peux pas imposer des tarifs, tu ne peux pas imposer un certain nombre de réglementations sans passer par l'Assemblée nationale pour le Québec ou le Congrès pour les États-Unis, d'accord? Sauf si l'État est en danger. Donc,
l'état
en fait,
d'urgence.
Cette croyance, c'est ça. Tu crées en fait un état d'urgence qui te justifie le fait de mettre en place une réglementation sans passer par éventuellement le Sénat ou l'Assemblée nationale. Et quelque part, on a eu la crise sanitaire. Tout le monde était d'accord, la plupart, d'avoir une organisation politique par décret. Toutes les trois semaines, M. Legault mettait des nouveaux décrets sans passer par l'Assemblée nationale. Donc, parce que ça nous arrangeait, parce qu'on avait peur d'un virus, on était d'accord d'avoir une forme gouvernementale où on oublie l'élément fondamental qu'est l'Assemblée nationale pour assurer la démocratie au sein du Québec. En fait, Donald Trump est juste en train d'utiliser exactement la même chose, de nous faire croire qu'on est face à un grand danger quand on vit aux États-Unis parce que les frontières sont poreuses et ça justifie éventuellement la mise en place d'une réglementation sans passer, donc d'un décret, sans passer par l'Assemblée. Donc, il faut toujours regarder les choses, ouais. C'est à qui profite le crime et ça nous aide à comprendre ce qui se passe.
On aura l'occasion de s'en reparler des fameux fact-checkers qui font du fact-checking, tant d'expressions, hein. Anglophone, Joël Monzé. C'est toujours un plaisir de te parler. Je rappelle aux auditeurs que tu es auteur, conférencier, formateur international. Joël Monzé, tu es docteur en neurosciences. Pour les gens qui veulent avoir accès à tes travaux et tes conférences, ben c'est joelmonzé.com.
Exactement, ou cerveauetpsychologie.com si vous voulez en savoir plus sur le cerveau.
Merci beaucoup d'être passé. On se reparle dans quelques semaines.
Merci tout le monde.
Salut tout le monde, à demain.
Marceau, le soir.
Attention, Zoom Lunettes, c'est plus de 3000 montures à partir de 20 $, mais aussi de grandes marques. Forfait verre et monture, simple vision 70 $ et progressif 150 $.
Zoom, zoom, lunettes!
Salut, c'est PA! Hey, l'autre jour, en mettant mon vieux manteau, j'ai trouvé 10 $ qui étaient restés dans mes poches. Hey, c'est-tu le fun, hein, de trouver de l'argent?
Et vous n'avez pas fini d'en trouver avec Beauport Nissan et 5 fois Nissan. Grâce au Boni Nissan et au retour des subventions, obtenez jusqu'à 8 000 $ de rabais sur la Nissan Leaf électrique. 0% d'intérêt à la location sur 48 mois et aucun acompte à verser. Fini l'essence, gardez plus d'argent dans vos poches. À
Avec Sainte-Foy-Nissan et Beauport-Nissan, c'est le temps de changer.
Depuis 100 ans, Junot et Frères est votre expert en peinture et décoration. Jusqu'au 23 mars, 50 % de rabais sur le deuxième galon Régal Select et peinture à plafond Benjamin Moore. Junot et Frères sur Pierre Bertrand et nouvellement à Lévis sur Guillaume Couture.
Sanivac est maintenant dans ta région, avec le plus grand inventaire de toilettes au Québec. De la petite toilette portative en plastique jusqu'à nos grandes roulottes sanitaires prestigieuses flambant neuves, nous avons ce qu'il te faut. Sanivac t'offre du confort partout, peu importe la météo. Chauffage, air climatisé, les toilettes les plus confortables, là où tu t'y attends le moins. Propre, fiable, livraison en 24 heures et service d'urgence. Que ce soit sur un chantier ou pour un événement, choisis Sanivac. Inventaire, service, qualité.
Les 4 et 5 avril, dès midi, une programmation toute spéciale attend les familles pour le 10e week-end de Pâques Chocolat Favori. Participez à cette grande fête chocolatée au profit de la Fondation du Musée de la Civilisation. Au menu, spectacle, décoration de chocolat,